Bonjour à toutes et à tous. Merci Thomas pour ta présentation très enrichissante et merci Philippe pour ton invitation à ce colloque. Comme l'a mentionné Thomas dans sa présentation, moi je vais aller tout à droite de son schéma, du côté des signaux sonores et pas des systèmes, et d'un signal en particulier qui va être celui de la voix, qui sera l'objet de ma présentation. Et donc la question que je vais aborder ici, c'est d'aborder la voix dans son rapport à la musique à l'aune des sciences et des technologies actuelles et de montrer en quoi les sciences et les technologies peuvent servir d'outils à la création musicale, entre autres. Donc j'ai voulu partir d'une citation de Pierre Boulez que j'aimais bien pour représenter ou pour souligner la dualité des rapports de la voix dans la musique. La voix dans la musique, c'est un instrument particulier, singulier, dans la mesure où elle peut obéir soit au système musical, soit au système linguistique dans un but de communication, ainsi que pour produire des sons qui peuvent échapper à ces systèmes, donc qu'il appelait sauvages ou irréductibles. Donc c'était le point de départ de ma présentation. Je rappelais les différents points de vue d'entrée, on va dire, sur la voix, très, très général. C'est un instrument de musique exogène, dans la mesure où la voix n'était pas faite, n'a pas été pensée comme un instrument de musique à son origine. C'est d'abord un instrument de communication, avec le langage, etc., et les fonctions linguistiques qui s'y rattachent. Elle partage avec la musique le son et le temps comme moyen d'expression. Donc ça, c'est ce qui lie vraiment fondamentalement la voix et la musique, et ce qui fascine tant les musiciens et les compositeurs. Et donc, ce que Pierre Boulez mentionnait déjà, c'est que c'est la coexistence de deux systèmes, un système linguistique de communication et un système musical, la voix comme un instrument de musique, avec cette possibilité, toujours fascinante aujourd'hui, qui est la possibilité d'une expression qui dépasse le cadre des systèmes, comme par exemple l'expression des émotions. Alors les émotions, c'est discutable, mais donc qui peuvent s'émanciper des systèmes linguistiques pour transmettre des expressions ou une expressivité pure. Alors, dans une première partie, je vais faire un peu de science pour décrire ce que j'ai appelé la machinerie vocale. Donc on va rentrer à l'intérieur de la voix avec un premier schéma. Ah, alors j'ai mon petit... Ah voilà, génial. Donc, je vais décrire très brièvement le mécanisme de production vocale. Donc, nous avons des poumons qui produisent de l'air, qui remontent à travers le larynx, jusqu'à une première partie qui se trouve ici, qui s'appelle la glotte, et à l'intérieur de laquelle se trouvent les plis vocaux. Donc, la glotte, c'est... On a un zoom qui est fait dessus ici, et les plis vocaux, c'est les deux choses qu'on a sur les côtés. Alors, on va faire une démystification après sur justement l'appellation des plis vocaux par une vidéo très explicite. Et donc, l'air passant à travers ces plis vocaux vont les faire vibrer à une certaine vitesse, s'ils veulent vibrer à une certaine vitesse, qu'on appelle donc une période fondamentale ou la fréquence fondamentale, et qui vont se rattacher à la hauteur du son qui sera produit. Donc on va produire un son à une certaine hauteur. Quand les vibrations donc, sont régulières, quand elles ne sont pas régulières, c'est simplement de l'air qui passe, et donc c'est du bruit qui va être transmis. Donc on repart maintenant ici. Le son émis au niveau de la source glottique suit son chemin dans ce qu'on appelle le conduit vocal, et qui va renfermer un certain nombre de cavités, pharyngées, buccales, nasales, etc., et qui vont avoir comme fonction d'amplifier et de colorer le son. Je vais y revenir également. Donc on va regarder, ça c'était une coupe illustrative, et on va rentrer à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je disais que je voulais démystifier l'appellation des cordes vocales, qui est largement partagée encore aujourd'hui, même parmi certains scientifiques. Mais maintenant on appelle ça des plis vocaux, parce que, nous allons le voir, ça n'a rien à voir avec des cordes. Là nous allons rentrer à l'intérieur de la bouche d'un chanteur, avec une caméra ultra rapide, donc on va voir des vibrations très très lentes d'ouverture et de fermeture de ces plis vocaux qui sont ici, hein, hop, le côté gauche, le côté droit, et donc qui s'apparentent plus à une valve, on peut le voir, qu'à des cordes. Voilà, d'où l'appellation des plis vocaux. Ça, c'était une première illustration où on peut voir vraiment l'ouverture et la fermeture de ces plis vocaux. Maintenant, on va passer à une autre vidéo où on va voir, cette fois-ci, en action, avec le son. D'ailleurs, je ne sais pas à quel niveau sonore. Hop. De quatre chanteurs. Alors que je ne vais pas passer en entier. Alors, les voici. Et nous allons rentrer, alors vous voyez, c'est de l'endoscopie, c'est des toutes petites caméras qu'on fait rentrer par le nez et qui permettent de filmer les plis vocaux. Donc on va passer un petit peu, ça c'était hop, un petit peu plus loin dans la vidéo. Ah, moi non plus, je n'ai pas de son. Ah si, autant pour moi. Donc voilà, on avait l'impression d'un quatuor de calamar, presque. Et on voyait que là, à vitesse réelle, on ne voit évidemment pas l'ouverture et la fermeture des plis vocaux. Cette vitesse étant trop rapide pour l'œil humain. Maintenant, nous allons passer un peu plus haut, donc dans le schéma. Cette fois-ci, dans le conduit vocal, par l'imagerie à résonance magnétique, avec un chanteur de profil, qui va chanter donc du Wagner, et nous allons pouvoir observer les mouvements des articulateurs au cours du chant, et vous allez voir, c'est un mécanisme extrêmement technique et complexe. Donc voilà, ça c'était pour une première plongée à l'intérieur de l'appareil vocal. Maintenant, on va revenir au niveau du signal. Donc tout l'objet de travaux des gens qui font du traitement du signal et de la synthèse vocale, c'est d'être capable de comprendre et de reproduire au niveau signal les propriétés physiques que nous avons vues, donc de la source glottique et du conduit vocal. Et donc si on revient, donc là c'est toujours... voilà. C'est le schéma que j'avais présenté tout à l'heure. Ici, on a la glotte, ici, on a le conduit vocal. Ce que j'ai dit, donc au niveau de la glotte, quand elle s'ouvre et se ferme à une vitesse régulière, comme on l'a vu sur la vidéo, ça va produire une certaine hauteur et ses harmoniques. Donc voilà, ça, c'est les fréquences qui sont associées aux vibrations des plis vocaux. Et le conduit vocal, lui, n'a pas une forme toute plate. C'est... un filtre, donc qu'on va appeler un filtre, qui va être associé aux résonances du conduit vocal. Donc, en fonction de la configuration des articulateurs, je vais avoir une certaine géométrie de mon conduit vocal, et je vais avoir des modes de résonance. Donc là, on revient au système physique, qui vont être particuliers, et ce mode de résonance va être associé avec des fréquences de résonance. Et ces fréquences de résonance, c'est les pics qu'on voit ici, Ça veut dire qu'il y a des fréquences qui vont être amplifiées plus que d'autres. Et donc, l'effet perceptif que ça a, c'est que ça colore le son. Au lieu d'être tout plat comme il était ici, il va avoir une forme particulière qui vont lui donner une couleur. Donc voilà, ça c'est pour bien distinguer donc, les contributions de la source glottique, ce sont les hauteurs et les harmoniques, une structure harmonique. Et le conduit vocal, ça va être une couleur, et on appelle ça les pics de résonance de ce filtre, on appelle ça les formants habituellement, et les formants sont caractéristiques des phonèmes qui sont prononcés dans une langue donnée. Et donc en sortie de tout ça, on a le son émis de la voix qui est simplement la multiplication de ces deux contributions. Hop, et là, c'est là où je sors un moment de la présentation pour faire une petite démonstration dans le logiciel AudioSculpt. Voilà. Que Thomas a déjà présenté précédemment. Ici, on est dans le vrai logiciel, ce n'est pas une capture d'écran, donc on peut jouer le son. Bon, voilà, ce n'est pas très intéressant, c'est moi qui dis A, E, I, O, U. Ce qu'on peut voir, donc ce que disait Thomas tout à l'heure, ce que je vous ai montré sur les harmoniques et les résonances, donc ici, ce schéma, cette illustration, elle est obtenue par transformée de Fourier. L'axe qui est ici, c'est le temps, dans lequel on peut se promener par la lecture du son. Et l'axe qui est ici, ce sont les fréquences, avec en bas les basses fréquences et en haut les hautes fréquences. Et le code couleur qui est associé à ces fréquences, c'est le rouge va représenter beaucoup d'énergie à une certaine fréquence et le noir pas du tout. Donc on voit les silences très bien par exemple. Et ce qui est intéressant donc, dans les sons, c'est d'abord ce qu'on voit immédiatement, c'est la structure harmonique. Donc on peut même zoomer encore plus dessus. On voit clairement des raies harmoniques comme un peigne. La structure, et ça, c'est ce qui est associé à la hauteur de la voix. Et si on fait une opération soi-même, comme le préconise Thomas dans ses cours, si on plisse les yeux, on va observer une deuxième structure qui se surimpose à cette première structure. Mais moi, je suis feignant, donc je veux laisser l'ordinateur faire tout seul. On va faire plisser les yeux à l'ordinateur à travers une analyse qu'on appelle analyse LPC, qui est utilisée pour mettre en valeur les résonances de la voix. Donc là, on a une deuxième structure qu'on pouvait observer déjà en voyant qu'il y avait des fréquences qui avaient plus d'énergie que d'autres, mais qui sont plus mises en valeur. Et donc, on voit, par exemple, ici un premier formant, un deuxième formant, un troisième, etc. Et ce qu'on voit surtout, c'est que ces formants, en tout cas cette structure formantique, est différente d'un phonème à un autre, alors que si on regardait la structure harmonique, on avait l'impression que c'était pareil, c'était à peu près la même hauteur. Et donc, c'est là-dessus que les voyelles et les phonèmes de la langue vont se différencier. Donc, je vais revenir à l'analyse précédente. Et pour vous donner une idée aussi de l'importance de la coloration du son, de cette structure formantique, je vais faire une petite opération qu'on appelle synthèse source-filtre. Donc, je vais prendre les filtres de ma voix et je vais remplacer la source par un autre son. Et alors, je vais d'abord vous montrer le son, peut-être, ça sera plus simple. Donc, j'ai choisi un premier son que je vais baisser avant de faire l'opération. Donc, ça s'appelle du bruit blanc. On voit son spectre, c'est du bruit blanc. On peut l'écouter. Voilà. Et donc, on va filtrer ce bruit avec les résonances de mon conduit vocal sur cet exemple-là. Donc, je reprends ce son. Hop. Voilà, le son filtrant, c'est moi. Et alors, où sont mes exemples? Hop. Et je vais prendre pour commencer du bruit. Nous allons faire la transformation. Bon, ça c'est pas très important. Hop. Et donc même avec du bruit, vous allez voir, on entend parfaitement bien les phonèmes. Voilà, ça c'était un premier exemple. Et un deuxième beaucoup plus évolué, cette fois-ci on va remplacer non pas par du bruit blanc, mais par des instruments de musique. Donc là c'est un ensemble de cordes. qui joue 1, Do, 3. Et donc, on va changer cette fois-ci dans le logiciel le bruit par... Alors, je suis parti ailleurs. Hop. Par ce son. Pof. Et on y va. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire parler, entre autres, des instruments de musique ou des orchestres, donc en appliquant les filtres vocaux sur des structures musicales. Donc ça, c'était pour l'exemple. Et maintenant, on revient dans la présentation. Allez, hop. Et donc, comme on l'a déjà vu, j'avais anticipé ce slide-là, c'est que les propriétés de source et du filtre évoluent au cours du temps. Nous bougeons nos articulateurs, nous modifions les propriétés de nos pieds vocaux, et cette évolution au cours du temps va se rattacher à deux termes donc, qui vont nous raccrocher cette fois-ci à la linguistique, à des plus hauts niveaux, qui sont l'articulation, qui sont les déplacements ou l'évolution de mouvement des articulateurs au cours du temps, qui va permettre par exemple de former des phonèmes, des syllabes, des mots, etc., et donc de construire du sens et des phrases, et la prosodie, donc ça c'est un terme très important pour les musiciens, ce qu'on appelle, ou ce que certains appellent la musique de la voix, parce qu'elle est décrite, comme ce qui est spécifié ici, par des propriétés d'accentuation et de phrasé, donc ça c'est des choses qui parlent aux musiciens, et aussi qui se caractérisent acoustiquement par les variations de hauteur, d'intensité et de durée, comme les musiciens parlent également de, en termes pour la musique. Et donc la prosodie, c'est quelque chose qui se surimpose donc, à l'articulation des phonèmes, des mots, etc., et qui va surimposer un sens secondaire, en tout cas qui va moduler ou infléchir le sens strict des phonèmes pour, par exemple, ici on a les... Bon, je vais revenir sur le schéma, ou pour aller plus loin, carrément, pour véhiculer de l'expressivité, des émotions, etc. Alors, ici j'ai un exemple amusant que j'ai fait hier, qui est imparfait, mais qui va montrer l'importance de la prosodie dans la communication de l'expressivité. Donc j'ai un exemple de Marilyn Monroe.
What's the matter with him? What did I do? Oh, I'm terribly sorry, Shanti. Really, I am. I was just so anxious to tell you the news. We're going to be married.
Et je me suis amusé à aplatir son intonation. Et vous allez voir, ça véhicule beaucoup moins de choses.
What's the matter with him? What did I do? Oh, I'm terribly sorry, Shanti. Really, I am. I was just so anxious to tell you the news. We're going to be married.
Voilà, donc là j'ai aplati que les hauteurs. Si on voulait neutraliser la prosodie, il faudrait enlever les accents, il faudrait enlever, aplatir l'intensité, normaliser les durées, etc. Et là on aurait vraiment le sens strict véhiculé par la voix de Marilyn. Et donc d'une certaine manière, la voix chantée et la musique, c'est une sorte d'intensification de l'expressivité de la voix par une prédominance en fait, de ce canal prosodique. Par-dessus ou par-delà l'articulation et la construction du sens strict. Donc ici, nous avons à droite, alors c'est un vieux schéma, mais qui est toujours d'actualité, en fait, qui sont les 10 contours intonatifs du français d'après Philippe Delattre, en 1966, et donc qui classait des formes de contours intonatifs en fonction d'un certain nombre de modes d'expression, donc qui vont des questions aux interrogations, etc., avec par exemple... Quand on pose une question, le ton montant final, etc., etc. Et donc, c'était une manière de décrire ou de donner un lexique des contours intonatifs pour des langues données. Et donc, ça, ce sont des thématiques de recherche toujours actuelles. Alors, bon, pour nous qui travaillons sur la synthèse des signaux vocaux, toute la problématique, c'est donc on a plusieurs étapes de traitement. Celle de l'analyse, donc Thomas en a parlé avec des représentations temps-fréquence. Généralement, on utilise la transformée de Fourier, mais elle est transformée aujourd'hui plus évoluée. La séparation par le signal des propriétés, des caractéristiques de la source glottique et du conduit vocal. Et de l'autre côté, il faut des moteurs de transformation et de synthèse pour pouvoir modifier et resynthétiser les signaux sonores vocaux. Et cela, tout cela fait appel à des notions donc, assez larges, multidisciplinaires, de physique, de traitement du signal, mais aussi de linguistique et beaucoup d'apprentissage machine, de plus en plus. Alors, je me suis amusé, on va passer rapidement là-dessus, à faire une petite histoire de la synthèse vocale. En repartant très très loin, donc de l'automatique et de la première machine parlante connue en ce monde, qui était la speaking machine, la machine parlante de Wolfgang von Kempelen, qui était un système mécanique, avec des soufflets et des boîtes qu'on activait, etc., pour produire des sons. Là, j'ai pas mis les exemples sonores, je vais plutôt passer sur le slide suivant. Et puis après, on fait un saut. Donc ça, c'était au fin 18e siècle. On fait un saut au 19e siècle avec l'électricité et l'apparition du vaudeur, donc qui était une version très modernisée de la machine parlante, dans laquelle c'était une machine qui ressemblait à une espèce de machine à écrire sur laquelle on pouvait contrôler les sources d'excitation périodiques ou bruitées, différents types de filtres et puis aussi différents types de hauteurs pour produire des intonations différentes et pour, par exemple, modifier le ton d'une affirmation sur le ton d'une question. Et ensuite, on parle à l'informatique et à l'exemple le plus connu de la synthèse vocale donc, produite par les laboratoires Bell en 1961 avec l'IBM 7094, si je ne me trompe pas, et la chanson Daisy Daisy, qui avait été reprise notamment dans le film 2001, Odyssée de l'espace, par Stanley Kubrick. Donc ça, je ne vais pas mettre d'exemple, vous pouvez les trouver sur Internet très facilement. Et je vais faire un bond dans le temps pour passer à des systèmes de synthèse vocale plus actuels. Et donc notamment, on va commencer à la fin des années 70 avec des synthèses dites par LPC ou par Formant, dont des premiers exemples étaient produits à l'IRCAM, à la création de l'IRCAM par Xavier Rodet. Donc on a un premier exemple de voix qui parle.
Il a étudié l'informatique à l'université Paris 6.
Voilà, donc ça c'était une synthèse totalement automatisée. Il suffisait de rentrer le texte et la synthèse était produite avec une voix d'ordinateur, qui n'était aucune voix en particulier. Et Xavier Rodet étant facétieux, pour faire son entrée à l'IRCAM, il avait aussi fait chanter la voix avec un clin d'œil à son fond. Ah, je vais y arriver.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
Voilà. Donc ça, c'était... Il ne veut plus s'arrêter. Allez, ça suffit. La machine s'emballe parfois. Donc, voilà, ça, c'était les tout premiers essais. Alors, ça prête à sourire aujourd'hui. Bon, on est 40 ans ou plus de 40 ans plus tard. Quelques années plus tard, un exemple beaucoup plus impressionnant, par synthèse formatique de chant, l'air de la Reine de la Nuit. Déjà un saut qualitatif extrêmement important. Alors, c'était de la synthèse formantique. C'était plus facile parce qu'il n'y avait qu'une voyelle à synthétiser. Mais il y avait des travaux importants sur des systèmes qu'on appelle de règles pour prédire les intonations, les liaisons, etc., de hauteur, d'intensité qui étaient nécessaires à produire les notes par la chanteuse. Donc là, on va faire un... Cette fois-ci, on passe dans les années 80 avec la synthèse dite par diphone. Donc on passe dans l'ère de la synthèse par corpus, donc on a des corpus de voix qu'on découpe en petits morceaux, ici par diphone, puis par sélection d'unités, donc là on n'a plus des diphones, on peut avoir des unités de plus en plus grandes, au milieu des années 90, et là j'ai des exemples, alors je n'ai pas les exemples du milieu des années 90, mais j'ai des exemples que j'avais produits à l'IRCAM en 2011, avec la voix d'André Dussolier, donc ça c'est la machine qui parle, avec une voix apprise à partir du corpus d'André Dussolier.
Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore.
Voilà, donc ça c'était la sélection d'unités et la synthèse par corpus dans ce sens-là. C'est, on construisait une voix, on avait besoin de beaucoup d'enregistrements de cette voix-là, qu'on découpait en petits morceaux, et après on était capable de dire de nouveaux textes avec cette voix-là, mais avec le style et la prosodie qui étaient contenues dans le corpus qu'on avait enregistré. À partir du début des années 2000 et fin des années 90, on passe à de la synthèse qu'on dit statistique, donc là c'est de la synthèse par HMM, où cette fois-ci, on essaye de s'affranchir des limitations de la synthèse par sélection d'unité. On a une seule voix, par exemple, et on est limité à son expressivité naturelle. Là, on va créer des modèles statistiques à partir d'un grand ensemble de voix, donc qui peut être des dizaines, des centaines, des milliers de voix, pour apprendre les propriétés statistiques, par exemple, d'une voix dans une langue donnée, et après, être capable soit de synthétiser une voix moyenne, la voix de l'individu moyen en français, par exemple, soit de la réadapter avec un tout petit peu de données sur une nouvelle voix ou l'adapter à des émotions, etc. Donc là, c'est une synthèse avec le logiciel Festival.
Good day everyone, I am very happy to be here.
Donc ça, c'était en 2016. C'est pas la synthèse par HMM la plus aboutie. Et puis, on refait un saut cette fois-ci dans les années, alors j'ai pas su dater exactement, mais aux alentours des années 2010, avec le deep learning cette fois-ci. Donc on n'a plus des milliers de voix, mais on a des quantités phénoménales de voix, dont pas nécessairement avec des informations, des labels préannotés, etc. Et tout le monde a forcément en tête donc l'article de Google et de DeepMind qui a été produit l'été dernier avec donc le système WaveNet qui est de la synthèse par réseau de neurones récurrents, donc où cette fois-ci ils arrivent à prédire non plus les formes spectrales que j'ai montrées de la voix, mais échantillon après échantillon sur la forme d'onde temporelle. Donc est-ce qu'il donne un exemple comme ça.
The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser.
Voilà, et c'est ce type de voix qu'on entend généraliser aujourd'hui sur la plupart des moyens de communication. Vous avez tous un téléphone, donc vous avez de la reconnaissance vocale dessus, mais vous avez aussi on appelle ça maintenant des assistants personnalisés, qui sont soit Siri, soit OK Google, etc., avec des voix de synthèse qui vous parlent. Et donc c'est de plus en plus les grandes multinationales comme Google, Facebook, Amazon, etc., travaillent à donner des personnalités vocales à leurs assistants. Donc en travaillant sur la synthèse vocale et les systèmes de dialogue et d'interaction homme-machine. Donc ça, c'était pour la petite histoire de la synthèse vocale. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Alors, je ne sais plus du tout où je suis dans le temps, donc vous m'interrompez si je suis trop long. Je vais montrer des applications en fait, de ce qu'on peut faire avec ces technologies vocales ou ce qui a été fait. Donc, j'ai pris trois exemples de trois compositeurs, ce qui a été fait sur les technologies et les sciences de la voix pour l'écriture musicale. Donc, les applications normalement sont très nombreuses. Nous, on travaille beaucoup à l'IRCAM, notamment et de plus en plus pour le théâtre et pour le cinéma. J'aurais pu vous passer des exemples également, mais j'ai voulu me focaliser sur la musique ici. Et donc, on va montrer trois illustrations musicales. Alors, la première des choses, c'est que ces outils d'analyse synthèse, ils permettent non seulement de synthétiser la voix, mais aussi de la sculpter, c'est-à-dire de modifier ses propriétés. Je vous ai déjà montré des exemples de la synthèse source-filtre, mais on peut l'utiliser à des fins créatives, par exemple en créant des voix hybrides à partir de la source glottique d'un lion et le filtre d'une voix humaine pour créer ce qu'on peut appeler une voix de lion, faire parler un lion. Voilà. Ça, je ne veux pas avoir le temps parce que je crains le deuxième exemple. Donc, on peut corriger les intonations des chanteuses. J'avais un exemple où on a une chanteuse qui chante horriblement faux. Je pourrais vous le passer si vous le souhaitez par la suite. Et prenant l'exemple d'une chanteuse qui chante la même chose, mais juste, on peut copier le phrasé mélodique de cette chanteuse et l'appliquer directement sur la chanteuse qui chante faux pour corriger et faire une voix tout à fait convaincante. Bon. Mais je vais le sauter cet exemple et on va passer donc au premier exemple d'illustration d'utilisation de la voix dans la musique. C'est Jonathan Harvey, donc qui a créé une œuvre Speakings en 2008. Et je vais parler d'abord de vocaliser la musique. Vocaliser la musique, alors il l'a fait de plusieurs manières. Je vais m'arrêter à une seule. C'était la transcription de la voix, c'est-à-dire écrire de la musique ou orchestrer de la musique qui suit les intonations ou qui reproduisent les intonations de la voix naturelle. Donc là, on va avoir un exemple où on va avoir donc l'écriture de cette partition synchronisée avec la voix de l'auteur. Et donc aussi dans sa version définitive, du coup, réorchestrée. Donc ça, c'est un premier exemple d'imitation finalement de la prosodie ou d'orchestration de la prosodie de la parole par l'orchestre. Et puis il y a une généralisation de ça que moi je trouve extrêmement impressionnante qui peut être faite grâce au logiciel appelé le mosaïking qui permet de recomposer un son avec des éléments d'un autre son. Donc le principe est extrêmement simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on peut s'amuser à reproduire une voix par exemple.
75. Elle se garantira du froid avec ce bon capuchon.
Voilà, donc on va essayer de garder en mémoire cette prosodie et ces mots-là. Et on peut les reproduire avec, par exemple, un violon. Donc ça, c'est un enregistrement de violon. Donc voilà, alors il n'y a pas que ces quelques secondes, je crois que ça va durer une minute ou deux. Et donc le violon qui recompose la voix donne quelque chose comme ça. Ah, évidemment. Ah, non. Donc si vous voulez réécouter ce passage-là.
75. Elle se garantira du froid avec ce bon capuchon.
On va repasser cette fois-ci. Ah, faut pas mettre les sons trop proches. Hop. Ah. Voilà. Hop. Décidément. On peut le faire dire par une flûte, donc je vais enchaîner. Oh là là. Alors moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est qu'on entend, on a l'impression d'entendre les phonèmes de la voix, on réentend le texte, alors avec un petit peu d'effort quand même. Mais alors là, cette fois-ci, avec plus du tout d'effort, là, on a poussé le vis jusqu'à reconstituer avec une pièce d'électroacoustique en entier, donc à partir de la pièce articulation de Gheorghe Ligeti, qui ressemble à ça. Et là, on va entendre le sens sans aucun problème, si j'y arrive. Yeah, non. Voilà, je vais faire quelque chose, hop, ça sera plus simple. On va l'éloigner de ses copains. Ah, bah, il est complètement parti. Bon, on va le jouer ici, ce sera plus simple. Alors moi, je connais les phrases par cœur. 75, elle se garantira du froid avec son bon capuchon. Annie s'ennuie loin de ses parents. Donc voilà, mais on entend très bien, on peut reproduire de la voix humaine les intonations et les phonèmes à partir de n'importe quel type de son grâce à cet outil logiciel. Je vais passer à un deuxième exemple. donc, qui est celui de Philippe Manoury, qui saurait probablement en parler mieux que moi, mais donc, je vais essayer de bien expliquer les différentes étapes. Donc, pour cette fois-ci faire un peu dans l'autre sens et musicaliser la voix, et par exemple projeter les intonations d'une voix parlée, les quantifier sur une échelle musicale pour les musicaliser. Et donc on va partir d'une voix parlée avec des réels.
Tief gesunken bis furchtbare Stoffe, die mit Stoffreihen gar nichts zu tun haben, ein Nessusgewand aus bösen Stoffen austreten konnten. Material, das auch in der Zukunft.
Voilà, et on va aller vers les projeter déjà sur des hauteurs tempérées, c'est-à-dire qu'on va mesurer les hauteurs sur chacune des syllabes et on va d'abord l'aplatir et la projeter sur le demi-ton le plus proche. Philippe, tu me corriges si je dis des bêtises. Donc voilà, et on va aller encore plus loin, cette fois-ci on va harmoniser, projeter cette fois-ci sur une grille musicale plus complexe qui va donner donc cette chose-là.
Wenn Sie wollen, sofort. Ja, Sie können sich von uns noch heiß aus der Hand fressen lassen. Von diesem Stoff und dem, was Sie aus uns machen. Keine Rede, obwohl kleine Leute machen von.
Donc ce sont deux appréhensions différentes, oui, j'ai juste un dernier slide et après c'est totalement fini. C'est deux appréhensions différentes de la voix dans la musique. La première, c'était la musique qui retranscrivait les intonations de la voix. Là, cette fois-ci, c'est on projette la voix sur des grilles musicales. Et pour finir, une approche tierce, puisque finalement les relations de la voix et la musique sont infiniment riches, j'ai envie de dire, c'est les approches du compositeur Joja Pergis qui va s'amuser à déconstruire le langage pour en extraire des nouveaux matériaux sonores et expressifs. Donc typiquement, alors ça c'est l'exemple amusant, on peut, à partir de synthèse par corpus aligné, on peut s'amuser à créer n'importe quel type de synthèse, par exemple en s'amusant à créer des assonances.
Civil, difficile, mobile, utile, voir, prévoir, choix, histoire, mémoire, avoir quelqu'un par. Parle, concitoyen, bien, combien, appartient, moyen, soutien, main, rien, et lointain, contemporain, demain, républicain.
Voilà, vous avez tous reconnu la voix de ce personnage, et on peut aller encore plus loin, donc aller vraiment à une finesse de grain très petite, qui est le phonème, et s'amuser à créer des textures sonores à partir de phonèmes, et encore une fois, hop. Bon, je vais carrément sortir, ça sera plus simple. Hop. On se rend bien compte que ça permet d'explorer d'abord la richesse de nos propres voix et de leur contenu, et puis ça permet, du point de vue de la composition, d'essayer de dépasser finalement les limites physiques imposées par la production de la parole pour produire des machines parlantes extrêmement, qui produisent des choses qui seraient impossibles à un être humain de produire. On peut aller dans un autre sens pour écrire des pseudo-langages, donc des textes qui n'ont pas de sens, mais dits par une personne qui a une intonation correcte.
Vie ou non de dormir, vous mettez des aspers, tant malgré mon désir, porche de Saint-Hilaire. Le lointain, de derrière que leur sens auditif, Splendeur de la lumière, tableau de primitif. Sud de la barrière blanche, soit néanmoins un peu. Vanouissez en blanche grenoie à cette malle. Vous la vue un sol s'il avait lui mal. Nire à la vie. Le sol plissant, tout à l'aller.
Donc vous n'avez rien compris, mais avec des intonations et un phrasé très français, et une autre façon de voir.
Sa voix. Sans être mourquoi. Sarpène. Sans être mourquoi, tant zard pire pourrait sans être en de pire voir à tant zard. Ça. Sans être de ces biens-là. Ça. Sans être au cœur.
Et après, on peut créer des motifs, donc ce sera pour conclure ma présentation. Par exemple, concaténer des unités en allant d'une intonation, une espèce de fusée montante, des hauteurs les plus basses aux hauteurs les plus élevées. Voilà. Et donc, ceci clôt ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.